Bonjour, ici Marc, bienvenue au 22e épisode du Bonheur pour tous, le podcast pour apprendre le bonheur. Aujourd'hui, je vous ai préparé le 22e chapitre du livre audio « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. J'ai déjà présenté ce livre plusieurs fois dans les épisodes précédents, j'espère que ce nouveau chapitre va vous plaire. Merci à Mathilde Joudiou qui a laissé un commentaire et 5 étoiles sur iTunes pour dire qu'elle est contente de pouvoir écouter le podcast pendant ses trajets et ainsi de suivre le chemin qu'elle suit avec la communication non violente depuis la naissance de sa fille il y a 3 ans. Et merci aussi à Bernard Divial pour son don généreux au podcast. Ça me fait plaisir d'être encouragé comme ça parce que je vois que vous appréciez. Voici donc le chapitre 22. Chapitre 22. L'énergie qui motive nos actions. En plus du processus de deuil et de pardon de soi, il y a un autre aspect de la compassion envers soi-même que je souligne, et cet aspect est la sorte d'énergie qui se trouve derrière toute action que l'on effectue. Lorsque je recommande « ne faites rien qui ne soit un jeu », certains pensent que je suis radical, voire même fou. Mais je crois sincèrement qu'une forme importante de compassion envers soi-même est de faire des choix motivés purement par notre désir de contribuer à la vie, et pas motivés par la peur, la culpabilité, le devoir ou une quelconque obligation. Lorsque nous sommes conscients que nos actions sont motivées par le désir de servir la vie, de quelque façon que ce soit, lorsque l'esprit de l'énergie qui nous anime est de simplement rendre la vie plus merveilleuse pour d'autres ou pour nous-mêmes, alors même un travail fatigant ou effrayant prend, au moins en partie, l'aspect d'un jeu. Et inversement, une activité par ailleurs joyeuse mais que l'on fait par obligation, par devoir, par peur ou par culpabilité ou par honte, va perdre sa joie inhérente et va éventuellement produire en nous de la résistance. Précédemment, j'ai suggéré qu'on considère remplacer une façon de parler qui sous-tend qu'on n'a pas le choix par un langage qui fait ressortir les choix qu'on a. Maintenant, je voudrais présenter une activité que j'ai entreprise il y a de nombreuses années, qui a largement agrandi le champ de bonheur et de joie disponible dans ma vie, tout en réduisant la dépression, la culpabilité et la honte. Je présente cette activité comme une manière possible d'approfondir notre compassion pour nous-mêmes, de nous aider à vivre notre vie de manière plus joyeuse, comme un jeu, lorsqu'on reste conscient que derrière tout ce qu'on fait, il y a ce besoin qu'on a d'enrichir la vie. La première étape de cette activité. Quelles sont les choses que vous faites dans votre vie que vous ne vivez pas comme des choses agréables, comme un jeu? Faites une liste sur une feuille, toutes ces choses à propos desquelles vous vous dites « il faut que je fasse ça ». Écrivez chaque activité que vous trouvez repoussante, mais que vous faites quand même parce que vous percevez que vous n'avez pas le choix. Lorsque j'ai passé en revue ma propre liste, juste de voir à quel point elle était longue m'a permis de saisir pourquoi autant de mon temps semblait passer à vivre sans plaisir de vivre. J'ai remarqué combien de choses je faisais chaque jour en me persuadant que je devais les faire. La première tâche désagréable sur ma liste, c'était écrire des rapports cliniques. Je détestais faire ces rapports et pourtant je passais au moins une heure à agoniser dessus chaque jour. En deuxième sur ma liste, il y avait conduire les enfants à l'école. Deux fois par semaine, quand c'était mon tour de le faire, avec les autres parents en covoiturage. La deuxième étape. Une fois que vous avez votre liste de choses que vous faites mais que vous n'aimez pas faire, reconnaissez clairement pour vous-même que vous faites ces choses parce que vous choisissez de les faire, et pas parce que vous devez les faire. Devant chaque élément de la liste, ajoutez les mots « je choisis de ». Donc pour moi, ça donnerait « je choisis d'écrire des rapports cliniques ». Je choisis de conduire les enfants à l'école 2 fois par semaine. Je me souviens ma résistance à faire ça. Je ne voulais pas admettre, même à moi-même, que je choisissais d'écrire ces rapports. Je me répétais, « Non, je ne choisis pas, je dois les faire, je suis un psychologue clinicien. » Troisième étape. Après avoir reconnu que vous avez choisi de faire telle ou telle activité, entrez en contact avec l'intention derrière le choix, en complétant la phrase « je choisis de » et vous mettez ensuite l'action que vous faisiez et que vous n'aimez pas. Dans mon cas, je choisis d'écrire des rapports cliniques, et ensuite ajoutez « parce que je veux », et ensuite écrivez ce qui vient après ça. Au début, j'ai eu du mal à identifier ce que je voulais en écrivant des rapports cliniques. Plusieurs mois auparavant, j'avais déjà déterminé que les rapports ne profitaient pas assez à mes clients pour justifier le temps passé à les rédiger. Alors pourquoi est-ce que je continuais à investir autant d'énergie à les faire ? Finalement, j'ai réalisé que je choisissais de rédiger les rapports uniquement parce que je voulais le revenu qu'ils me rapportaient. Dès que j'ai reconnu ça, je n'ai plus jamais écrit un seul rapport. Je ne peux pas vous dire quelle joie j'éprouve en pensant à tous ces rapports que je n'ai pas écrits depuis ce moment il y a 35 ans. Lorsque j'ai réalisé que c'était l'argent qui était ma motivation principale, j'ai vu immédiatement que je pourrais trouver d'autres moyens de prendre soin de moi-même financièrement. En fait, j'ai réalisé que je préférerais fouiller dans les poubelles pour trouver à manger plutôt que de rédiger un seul rapport clinique de plus. L'élément suivant sur ma liste des tâches non joyeuses était de conduire les enfants à l'école. Lorsque j'ai examiné les raisons derrière cette corvée, cependant, j'ai ressenti de l'appréciation pour les bienfaits que mes enfants recevaient en allant à leur école. Ils auraient facilement pu marcher jusqu'à l'école du quartier, mais l'école où je les avais inscrits était bien plus en harmonie avec mes valeurs éducationnelles. Donc j'ai continué à les y conduire, mais avec une énergie différente. Au lieu de me dire « Ah zut, il faut que je conduise des enfants à l'école aujourd'hui », le fait d'être conscient que mon but était de fournir à mes enfants une qualité d'éducation qui m'était très précieuse, eh bien je les conduisais avec une énergie très différente. Bien sûr, de temps en temps, j'avais besoin de me rappeler deux ou trois fois au cours du trajet, de me reconcentrer sur le but que mon action était en train de servir. Pendant que vous explorez la phrase « je choisis de », la chose que vous avez faite que vous n'avez pas aimée, parce que je veux, et là vous trouvez pourquoi vous faisiez cette chose, il se peut que vous découvriez, de la même manière que pour moi avec conduire les enfants, les valeurs importantes qui motivent les choix que vous avez faits. Je suis convaincu qu'après avoir fait le jour sur le besoin qui motive nos actions, nous pouvons vivre ces actions comme un jeu, même si elles impliquent du travail difficile, des défis ou de la frustration. Pour certaines des choses sur votre liste, cependant, il se peut que vous trouviez une ou plusieurs des motivations suivantes. Premièrement, pour l'argent. L'argent, dans notre société, est une des formes principales de récompense externe rapportée. Les choix motivés par un désir de récompense coûtent cher. Ils nous privent de cette joie dans notre vie qui résulte des actions dont la source est l'intention claire de contribuer à un besoin humain. L'argent n'est pas un besoin tel que je définis les besoins. C'est une des innombrables stratégies qui peuvent être employées pour tenter de satisfaire un besoin. Deuxièmement, pour l'approbation. Comme l'argent, l'approbation des autres est une forme de récompense extrinsèque. Notre culture nous a éduqués à être assoiffés de récompenses. Nous avons fréquenté des écoles qui ont utilisé des moyens extrinsèques pour nous motiver à étudier. Nous avons grandi dans des domiciles où on nous a récompensés pour être de bons petits garçons et filles, et où on nous a punis lorsque les gens qui s'occupaient de nous jugeaient qu'on ne l'était pas. Donc, en tant qu'adultes, nous nous fourvoyons facilement à croire que la vie consiste à faire des choses pour obtenir des récompenses. Nous sommes dépendants comme d'une drogue de recevoir un sourire, une tape sur l'épaule, et les jugements que prononcent les autres, comme d'entendre que nous sommes quelqu'un de bien, un bon parent, bon citoyen, bon travailleur, bon ami, etc. Nous faisons des choses pour plaire aux gens et nous évitons les choses qui pourraient faire qu'ils ne nous aiment pas ou bien qu'ils nous punissent. Je trouve ça tragique que nous travaillions si dur pour acheter l'amour et que nous pensions que nous devons nous effacer et faire pour les autres si nous voulons être aimés. En fait, quand on fait les choses uniquement dans l'esprit d'améliorer la vie, on s'aperçoit que les autres nous apprécient. Leur appréciation, cependant, est un retour qui confirme que nos efforts ont eu l'effet espéré. Reconnaître que nous avons choisi d'utiliser notre pouvoir de servir la vie et que nous avons fait cela avec succès, nous apporte la joie véritable de nous célébrer nous-mêmes d'une façon que la seule approbation des autres ne peut jamais égaler. Troisièmement, pour ne pas être puni. Certains d'entre nous paient l'impôt sur le revenu principalement pour éviter d'être punis. En conséquence, nous sommes susceptibles d'approcher ce rituel annuel avec une certaine rancœur. Je me souviens cependant comment pendant mon enfance, mon père et mon grand-père voyaient différemment le fait de payer des impôts. Ils avaient émigré de Russie vers les États-Unis et ils souhaitaient aider un gouvernement qu'ils croyaient en train de protéger les gens d'une manière que le tsar n'avait pas fait. En imaginant les nombreuses personnes que l'argent des impôts qu'ils payaient allait aider, ils ressentaient un plaisir sincère en envoyant leur chèque au gouvernement des États-Unis. Lorsque moi, j'ai vu que je payais des impôts pendant la guerre du Vietnam, je n'avais pas cette joie. Je voyais mon argent être utilisé à des fins que je n'approuvais pas. Et j'ai trouvé une façon d'éviter de donner l'argent pour les impôts. Je donnais l'argent pour des causes charitables que j'avais plaisir à aider, et j'ai appris à vivre avec un revenu sous le seuil de pauvreté afin de ne pas être imposé. Motivation suivante, pour éviter la honte. Il peut y avoir des choses que nous choisissons de faire juste pour éviter de la honte. Nous savons que si nous ne les faisons pas, nous allons souffrir d'un auto-jugement sévère en entendant notre propre voix nous dire comment nous sommes mauvais ou stupides. Si on fait quelque chose en étant motivé seulement par la pression d'éviter la honte, en général nous allons détester faire cette chose. Motivation suivante, pour éviter la culpabilité. Dans d'autres cas, on peut penser « Oh, si je ne fais pas ça, les gens vont être déçus. » Nous avons peur de nous sentir coupables pour avoir manqué de répondre aux attentes des autres. Il y a un monde de différence entre faire quelque chose pour éviter de se sentir coupable et faire cette chose à partir de la pleine conscience de notre propre besoin de contribuer au bonheur d'autres êtres humains. Le premier est un monde plein de tourments, le second un monde rempli du plaisir de jouer. Sixième motivation, par devoir. Lorsqu'on utilise un langage qui renie le choix, par exemple des mots comme « il faut »,« je dois », »,« devrait », »,« ne peut pas », »,« censé » et ainsi de suite, notre comportement est généré par une vague impression de culpabilité, de devoir, d'obligation. Je considère que de toutes les façons dont nous agissons quand nous avons perdu le contact avec nos besoins, c'est celle-ci qui est la plus dangereuse et la plus regrettable, aussi bien socialement que pour nous-mêmes. J'ai expliqué plus tôt comment le concept de Amtssprache a permis à Adolf Eichmann et à ses collègues d'envoyer des dizaines de milliers de personnes à leur mort sans se sentir émotionnellement affectés ou personnellement responsables. Lorsque nous parlons un langage qui renie le choix, nous renonçons à la vie en nous et nous adoptons une mentalité de robot qui nous déconnecte de notre fort intérieur. Si maintenant vous faites cette liste que j'ai suggérée et que vous tirez au clair pourquoi vous faites ces choses, que vous les faites parce que vous voulez quelque chose et que vous déterminez pourquoi vous les faites, vous pourrez décider d'arrêter de faire certaines de ces choses de la même manière que j'ai choisi d'arrêter les rapports cliniques. Aussi radical que ça puisse sembler, je crois qu'il est possible de faire les choses seulement par jeu. Je crois que le degré auquel on vit chaque moment le plaisir ludique d'enrichir la vie, motivé uniquement par ce désir d'enrichir la vie, à ce degré, nous faisons preuve de compassion envers nous-mêmes et la vie est un jeu. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, ce qui aussi me fera plaisir, laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. Et si vous voulez en faire profiter vos amis, parlez du podcast autour de vous ou sur les médias sociaux que vous fréquentez. Dans le prochain épisode, on continuera avec le 23e chapitre de la communication non violente. À bientôt !